Victor David est chercheur en droit de l'environnement et du développement durable à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, et membre de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Après des séjours en Afrique, en Nouvelle-Calédonie et à la Martinique, il est aujourd'hui basé à Marseille. Ses activités de recherche et son expertise actuelle sont axées sur l'évolution du droit de l'environnement et du développement durable. Outre son travail sur le statut d'entité naturelle juridique, ses travaux de recherche portent également sur les questions de santé environnementale. Il s'intéresse par ailleurs aux droits des populations autochtones. Il est également porteur pour l'IRD d'une étude de faisabilité et de la reconnaissance de la mer Méditerranée comme entité naturelle juridique. Il est membre de la Commission mondiale du droit de l'environnement, de l'UICN, et membre du réseau des experts du programme Harmonie avec la nature de l'ONU.
Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, merci d'être présents cet après-midi pour le lancement de l'Assemblée de la Terre France. Avant de commencer, je préfère vous présenter par avance mes excuses si je vous parais un peu trop
distributif, on va dire.
Donc, effectivement, je vais certainement aborder la question des objectifs de développement durable sous un angle un petit peu de remise en cause, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, on y va. Donc, depuis une quarantaine d'années maintenant, la communauté internationale, convaincue de l'importance et de l'efficacité du multilatéralisme pour construire une gouvernance mondiale du développement, sinon comme parti pris, du moins comme vision et objectif de et pour l'humanité. Donc cette communauté internationale a adopté différents documents officiels sous l'égide des Nations Unies. Certains sont des conventions, des accords sectoriels plus ou moins contraignants qui sont signés, ratifiés par les États, et d'autres documents qui sont à vocation plus incitative, tels que des principes, des agendas, des déclarations, lors de grands sommets mondiaux. Dans cette dynamique autour du développement durable, qui a commencé en 1992 avec le sommet de la Terre de Rio, la première étape fut l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement au tournant du siècle. Après quelques années de mise en œuvre, la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio plus 20, dont on a parlé en 2012, a lancé le processus de réflexion sur l'agenda de développement post-2015, ouvrant la voie à la création des objectifs de développement durable. Et parce que effectivement, au vu des résultats concrets atteints depuis l'an 2000, il était en effet devenu évident qu'une nouvelle approche était nécessaire. Et après 3 années d'élaboration et de négociations internationales, en 2015, les ODD sont adoptés en septembre lors du sommet des Nations Unies sur le développement durable. Le rapport final intitulé « Transformer notre monde, l'agenda 2030 pour le développement durable » a introduit 17 objectifs avec 169 cibles à atteindre d'ici 2030. Alors, donc, nous sommes arrivés à un moment sans doute où il faut commencer à réfléchir à un agenda désormais post-2030, mais aussi avec une approche et une vision à repenser, ça a été dit depuis tout à l'heure. Donc, et en attendant le coup d'envoi officiel des Nations Unies qui, pour l'instant, s'en tiennent dans un pacte pour le futur qui a été adopté l'année dernière, en 2024, à une stricte poursuite de l'agenda 2030. Alors, pour justement, pour que tout le monde soit au clair sur ce qu'on entend par les ODD, en quoi ça consiste et pourquoi il est nécessaire de les repenser à l'aune de l'harmonie avec la nature, je vous propose donc de passer par certaines étapes, donc revenir sur la création des ODD, vous donner quelques images des ODD aujourd'hui, de leur efficacité, de leurs limites, et puis on terminera donc avec la prise en compte de l'harmonie avec la nature, avec les ODD. Alors je vais commencer donc par parler des objectifs du millénaire du développement. Donc l'origine des objectifs du millénaire du développement, donc pour origine la Convention des Nations Unies sur l'environnement et le développement de 1992, dit sommet de Rio,
Et cette origine a évidemment part sur un certain nombre de constats. Donc à la fois la croissance rapide de la population mondiale. En 92, on était 5,5 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on en est à plus de 8 milliards. L'épuisement des ressources naturelles et la dégradation de l'environnement. Les inégalités économiques et sociales, notamment entre les pays en développement et les pays dits développés, avec à l'issue donc deux documents clés qui sont adoptés à Rio. C'est la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et l'agenda 21. Sur cette déclaration de Rio, on trouve un certain nombre de principes. Et par rapport à ce qu'on, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est-à-dire repenser à des ODD avec une approche un peu plus écocentrique, vous verrez qu'effectivement, donc en 92, la vision, l'approche, elle est complètement anthropocentrée. C'est les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable, nous dit le premier principe de Rio. Donc, en fait, le 1992 donc, s'inscrit dans une perspective d'une double primauté. La primauté donc, de l'humain et la primauté de la souveraineté des États. Point de nature dans le paysage. Alors, pourtant, on nous dit que pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie du processus, etc. Donc, on en parle, mais sans en parler. Et dans ces principes-là, il y a le principe 6 qui va directement inspirer les objectifs du millénaire, parce que dans les années 90, donc, il y a quand même cette prise de conscience que quelque chose ne va pas sur cette planète et qu'il y a des pays beaucoup plus pauvres et qu'il y a des populations beaucoup plus pauvres que d'autres et qu'il faut corriger ces inégalités. Et donc, vont naître ainsi les objectifs du millénaire du développement en 2015. En 2000, avec objectif 2015. Et qu'est-ce qui va... Donc, 8 OMD vont être définis. Et on voit bien que rien qu'à leur intitulé, on est bien dans cette philosophie, dans cette approche des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire que éliminer l'extrême pauvreté, l'éducation primaire pour tous, égalité des genres, réduire la mortalité infantile et post-infantile, on en est encore là, en 2000, je crois qu'on y est encore, et puis améliorer la santé maternelle, etc. etc. Donc là-dedans, on a l'objectif du millénaire 7, préserver l'environnement. Donc moi, je suis allé voir ce que c'était cet objectif 7, et puis on se rend compte que finalement, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a 4 cibles pour cet objectif 7, et sur les 4 objectifs de l'objectif 7, il n'y en a que 2 qui concernent directement la nature. Les 2 autres concernent à la fois la vie dans les bidonvilles, ou alors l'accès à l'eau. Les populations les plus démunies. Donc, ce n'est pas dans les OMD qu'on va trouver un fondement quelconque pour penser la nature autrement. Et donc, en 2012, donc Rio plus 20, la communauté internationale se réunit officiellement à Rio et décide donc de lancer l'agenda post-2015. Et donc, dans le rapport final de 2015, on va avoir un nouveau rapport, une nouvelle déclaration, transformer notre monde, l'agenda 2030 pour le développement durable, donc 17 objectifs avec 170 cibles à atteindre d'ici 2030. Il nous reste 5 ans. Donc vous avez tous vu certainement cette iconographie des 17 objectifs du développement durable. Donc on retrouve quelques idées de l'an 2000, donc pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé, éducation de qualité, égalité des sexes. Et puis après, on a un certain nombre d'autres objectifs qui commencent à être un petit peu innovants par rapport à 2000. Il faut savoir que autant les OMD de 2000 ont été rédigés uniquement par les services, je dirais, bureaucratiques, technocratiques des Nations Unies. Les ODD, par contre, font déjà une opération de rédaction participative, de concertation. On élargit en tout cas le cercle des contributeurs à la rédaction et à la conception des ODD. Et on voit quand même que effectivement sur les 17 objectifs, il y a une inégale répartition par rapport aux 3 piliers du développement durable. J'ai oublié de le dire puisque c'est le socle finalement. Le développement durable tel que défini en 92, c'est 3 piliers, le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. Et donc, par rapport à ces 3 piliers, comment se répartissent les 16 objectifs? Je dirais pourquoi 16 plus 1. Donc, effectivement, pas de pauvreté fin zéro, bonne santé et bien-être, éducation de qualité. Vous voyez que donc j'ai fait un petit code couleur, donc c'est effectivement les quatre premiers objectifs, zéro environnement. D'accord. Encore qu'on peut se demander si effectivement pour résoudre la faim zéro, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser à nos modes d'agriculture par exemple, et donc parler environnement. L'égalité entre les sexes, l'eau propre et assainissement, énergie propre et d'un coût durable, abordable pardon, et travail décent et croissance économique. Alors moi, c'est moi qui ai rajouté ce petit code couleur vert parce que il y a rien dans l'objectif si on le lit pardon dans son détail. Mais par contre, il y a évidemment des éléments sociaux dans ces objectifs-là. Les suivants, donc, par contre, le 9, 10, 11 et 12, donc on voit que l'objectif, le pilier économique est largement satisfait. Et sur les autres, même si c'est le changement climatique, même si c'est la vie aquatique, même si c'est la vie terrestre, eh bien, effectivement, c'est les trois seuls où l'environnement est directement impliqué ou en tout cas évoqué. Et puis, le 16e objectif, qui est donc paix, justice et institutions efficaces, mène à l'objectif 17, qui est finalement transverse, qui est un partenariat pour la réalisation des objectifs, qui ne concerne pas un pilier en particulier. Donc, c'est plus une méthode qui est évoquée. Donc, la place de l'environnement dans les 17 objectifs de 2015, elle est très faible. D'accord ? Donc, elle ne concerne en réalité que vie aquatique et vie terrestre. Si on parle du droit du vivant, si on s'intéresse à cette vision du droit du vivant pour se dire que ça devrait inspirer l'humanité, eh bien, on est un peu sur sa fin. Alors, les objectifs de développement durable, donc, au bout de 10 ans maintenant, on est capable de faire un certain nombre de constats et de bilans. Très rapidement, donc, les limites internes aux ODD, première limite, je dirais, qui est la plus importante, peut-être, c'est pas d'obligation juridiquement contraignante pour les États de rendre compte de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. D'accord ? Donc, chacun fait ce qu'il veut finalement, ou ne fait pas. Donc, ça, c'est quand même une limite. Ensuite, on a des problèmes de gouvernance et de coordination. Je veux dire, les objectifs ont été définis sous les auspices des Nations Unies, mais les Nations Unies n'ont pas de pouvoir coercitif sur aucun État membre, aucun de ses États membres. Donc, il n'y a pas d'organe dédié à la coordination de la mise en œuvre des ODD, etc. Les problématiques financières, parce que pour atteindre chacun des 16 voire 17 objectifs, il faut des financements. Alors cette année, vous avez vu que l'aide publique au développement a régressé encore plus qu'en 2024, dans les 6 premiers mois de cette année. Donc les États-Unis d'Amérique ont retiré leur aide publique au développement, et la France également, par exemple, qui est un des acteurs majeurs de l'aide publique au développement mondial. Donc on a des problématiques financières. Et puis la mesurabilité et le suivi des ODD, certes il existe des outils statistiques, mais très peu de suivi quand même. À cet égard, je voudrais juste donner un exemple. À l'occasion de la conférence des Nations Unies sur les océans qui s'est tenue à Nice il y a 2 semaines, le professeur Prieur a fait évaluer l'ODD 14, donc vie aquatique, qui est consacré notamment aux océans. Eh bien, un certain nombre d'acteurs ont été interrogés en France, sur la façade atlantique de la France, l'enquête a porté uniquement sur des personnes directement concernées, soit dans les administrations, soit dans les ONG qui cherchent à protéger l'environnement, l'océan, etc. Eh bien, sur ces personnes donc au courant de ce qui se passe en matière de protection de l'environnement, de gestion de l'océan, etc., eh bien, il y avait 48% qui avaient entendu parler de l'ODD 14. D'accord ? On est en 2025, en France. Donc, vous imaginez que c'est pas gagné. Et puis, évidemment, donc, les inégalités et les disparités sociales qui existaient avant même le lancement des ODD, eh bien, elles sont toujours là. Et puis, il peut y avoir des conflits d'intérêts entre les ODD. L'ODD 8, par exemple, je vous ai dit, est consacré à l'industrialisation. Il va très mal avec les autres objectifs de vie terrestre et vie aquatique, par exemple. Donc voilà, on ne peut pas avoir l'un et l'autre sans avoir cherché à équilibrer réellement. Autre limite, cette fois-ci, non pas interne, mais plutôt comme analyse avec recul, et c'est là que je vais peut-être vous choquer, c'est que les ODD sont un compromis politique minimaliste. D'accord ? Dès leur adoption, plusieurs observateurs, plusieurs scientifiques ont noté que les ODD, c'est un consensus politique mou, fruit de négociations diplomatiques où aucun État n'a voulu remettre frontalement en cause le modèle économique dominant, disons le gros mot capitalisme. Autrement dit, on sauve la planète, mais sans remettre en cause la cause économique mondiale. Donc, voilà, le truc est annoncé. Le défi est annoncé. L'ODD 18, je vous disais, promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, ça c'est du mirage. Ce n'est pas possible sans porter atteinte durablement et gravement aux limites de la planète. Les thèses de type halte à la croissance, etc., surtout on n'en parle pas parce que ça ne fait pas bien dans le paysage. Donc tous ces signaux-là font que les ODD ne passent jamais au vert, au sens propre. Par contre, la logique du business as usual, mais vert, ça, ça marche. D'accord ? On en est là. Donc un business as usual, vert. Les critiques continuent sur le fait qu'effectivement les ODD participent d'une stratégie de greenwashing globalisée. On verdit les discours et les agendas, on finance des projets durables, compatibles avec les intérêts économiques existants. Par exemple, on va aller financer des forêts au Bénin pour pouvoir justifier la RSE de BNP. On va éviter soigneusement de poser la question des structures économiques, du pouvoir des multinationales, des inégalités mondiales, de la surconsommation des pays riches. Donc, les ODD permettent de maintenir l'illusion qu'une croissance perpétuelle serait compatible avec la durabilité écologique. D'accord ? Donc, c'est un peu tromper son monde. Les ODD évitent de remettre en cause la consommation matérielle, notamment des pays du Nord. Les indicateurs restent centrés sur la croissance du PIB comme moteur du développement. Mais d'autres reconnaissent aussi quelques avancées positives. Malgré tout, les ODD ont eu un caractère universel, donc on reconnaît que tous les pays sont concernés, que l'intégration d'enjeux jusqu'ici marginalisés sont enfin prises en compte un petit peu. Donc je vais...
peut-être.
Ouais. Voilà. Donc pour parler des ODD, donc, tout ce qui aurait pu être fait pour réajuster les choses n'a pas été fait. Donc, voilà. Alors comment repenser les ODD maintenant au prisme de l'harmonie avec la nature ? Donc plusieurs pistes existent, je pense. Donc il faut passer d'un paradigme de maîtrise, de domination de la nature à un paradigme de coexistence et d'interdépendance. Par exemple, la notion de buen vivir qu'on trouve en Amérique latine, notamment dans la constitution de l'Équateur, peut être une piste intéressante. Il faut intégrer les droits de la nature et les sujets de droits non humains. Donc on a plusieurs exemples ces dernières années. Et puis inclure explicitement les écosystèmes comme sujet de droit et non pas comme objet de droit, ça a été dit. Et sans doute renforcer et définir de nouvelles obligations juridiques des humains envers le vivant et non humain. La conclusion veut qu'on dise que les ODD, effectivement, n'ont rien changé, on ne peut pas dire ça. Certes, ils ont changé quand même un certain nombre de choses, il ne serait pas fondé de dire que les ODD n'ont rien changé. Cependant, quand on regarde de près, malgré tout, par exemple, la mise en œuvre des ODD dans différentes régions du monde, les résultats sont tout aussi saisissants et tristes. Regardez ce tableau qui a été fabriqué à partir des données sur le progrès. Eh bien, en Afrique subsaharienne, aucun ODD n'a dépassé le cap du rouge en termes de mise en œuvre. Et seul en Europe, on trouve quelques taches vertes et le reste, même en Europe, est jaune. Donc, 10 ans après, on peut dire que les ODD n'ont pas réellement fonctionné. Donc, les questions que nous sommes en droit de nous poser aujourd'hui et tenter d'y répondre, en tout cas, c'est est-ce qu'il y a une définition, une seule définition du développement ? Est-ce qu'il faut suivre, faut-il le suivre ? Où que nous soyons sur cette planète, cette seule voie de développement basée sur la croissance économique ? Comment pouvons-nous mieux inclure une vision moins mercantile et servile de la nature ? Peut-être en nous inspirant de pensées autochtones, mais aussi d'encycliques papales. Laudato Si est un très bel exemple. Et finalement, c'est la raison d'être de l'Assemblée de la Terre, donc de la Terre France, telle que nous l'avons imaginée. Nous quatre avec Maria, donc c'est réfléchir ensemble à une nouvelle approche du développement respectueux du lieu et du vivant qui les habite. À travers l'Assemblée de la Terre, c'est de repenser en tant que Français les ODD au prisme de l'harmonie avec la nature. Et c'est là que, effectivement, il nous faut définir pour cela une feuille de route un peu originale, plurielle et pionnière surtout. Merci.